Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Il y a des pays où au lendemain des élections, on ne sait pas qui gouvernera. Et d'autres où bien avant le scrutin, on connaît déjà le vainqueur. En Russie, les élections présidentielles vont se dérouler dans une semaine très exactement. Mais le nom du président qui sortira des urnes est déjà connu. Il s'appelle Vladimir Poutine. Sans opposant d'envergure, grâce à un contrôle quasi total des médias et de l'administration, Vladimir Poutine est assuré d'entamer un quatrième mandat présidentiel. Malgré une situation économique guère florissante, si la Russie est sortie de récession l'an dernier, le pouvoir d'achat des ménages russes est en berne et le pays est toujours très dépendant du pétrole. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Tatiana Kastoueva-Jean.
Bonjour Daniel.
Vous êtes directrice du centre Russie NEI, NEI pour Nouveaux États Indépendants de l'IFRI. L'IFRI, c'est évidemment l'Institut Français des Relations Internationales. Votre dernier livre, La Russie de Poutine en 100 questions, est paru chez Taillandier il y a vraiment quelques semaines. Il sort vraiment des presses. Alain Colin-Lébedev, bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre, l'université de Paris-Nanterre. Claude Blanche-Maison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou et vous avez écrit un livre qui lui aussi vient de sortir, Vivre avec Poutine. On verra si c'est difficile pour les Russes, si c'est difficile avec le reste du monde. Et puis, en duplex du bureau RFI de Moscou, nous rejoignons Natalia Lapina. Bonjour, Starazhvetsie.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Académie des sciences de Moscou. Merci d'être en ligne avec nous de Moscou. Alors, il y a un poète russe qui a dit un jour quelque chose comme « On ne peut pas comprendre la Russie, il faut juste l'aimer ». On va quand même essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce vaste pays, le plus grand du monde, qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, un pays euro-asiatique à la fois tourné vers l'Europe et vers le Pacifique, et qui depuis mars 2000 est gouverné peu ou prou par le même homme, Vladimir Poutine. Et comme sa réélection pour un nouveau mandat de 6 ans est acquise, cela fera, sauf accident, 24 ans, une longévité digne des plus grands dignitaires africains et déjà supérieure à celle de Léonid Brejnev. Alors, laissons de côté un instant le fait que les opposants aient été éliminés ou empêchés de participer à ce scrutin, que les médias sont sous contrôle et que l'appareil d'État est au service du pouvoir en place, mais qu'est-ce que les Russes trouvent à Vladimir Poutine qu'ils le trouvent globalement populaire auprès d'une partie importante de la population? Car c'est bien le cas, Tatiana Jankosteva, Vladimir Poutine est plutôt populaire en Russie.
C'est vrai, il jouit d'une vraie popularité qui est probablement inférieure à ce que les sondages indiquent. Les Russes ont peur de dire leur vraie opinion aux sondeurs. Donc je pense qu'il faut corriger un petit peu à la baisse ce taux de popularité, mais qui dépasse très certainement 50%. Même les sondages de la Fondation anticorruption d'Alexei Navalny le donnent largement gagnant aux élections et montrent un taux de popularité de 60%. Plusieurs éléments dans cette popularité. Premièrement, les Russes mettent au bilan positif de Vladimir Poutine les pro économique, aidé par le prix élevé du pétrole et du gaz pendant les années 2000.
Oui, il faut quand même pas exagérer.
Il a pu faire une redistribution de cette rente énergétique où plusieurs catégories de la population russe ont vu leurs conditions de vie se sont améliorées. Deuxièmement, tout ce qui est stabilité politique intérieure est mis aussi à son bilan positif. N'oublions pas, il est arrivé au pouvoir dans les conditions de la guerre en Tchétchénie et cette référence au chaos des années 90 est toujours extrêmement présente. 18 ans au pouvoir, il s'en sert encore. Et aujourd'hui, il y a aussi l'exemple de l'Ukraine qui montre bien pour prouver que l'instabilité politique n'a rien de bon, les changements de régime. Donc c'est un autre point de référence. Et enfin, le troisième facteur qui met au bilan positif de Vladimir Poutine, qui plus récent, ça date plutôt du troisième mandat, c'est la politique étrangère, plus musclée, l'opposition à l'Occident, la récupération du rang international, du prestige, tout cela apparaît comme le premier point dans les sondages quand on demande qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié dans les acquis des présidents successifs de Vladimir Poutine.
Natalia Lapina, est-ce que Vladimir Poutine correspond assez bien à l'idée que le se fait d'un chef en Russie ?
Je pense que oui, parce que Vladimir Poutine accède au pouvoir à l'an 2000. Il veut construire un État fort et il veut renforcer les positions de la Russie dans le monde. Et de ce point de vue, il a pu réaliser les choses qu'il s'est proposé, les tâches qu'il s'est proposées, parce que les institutions politiques russes sont renforcées, la politique de centralisation a mis fin au séparatisme, il a pu donc limiter la arrêter plutôt la désintégration de la Russie, il a consolidé le pays, et les Russes, comme disent les sondages, ils aiment le pouvoir fort. Ils ont l'habitude du pouvoir fort historiquement et ils préfèrent que le pouvoir soit fort.
Là, on a Colin Lebedev. Ce sentiment d'une grandeur retrouvée, c'est important pour les Russes et les Russes leur sont, ils en donnent quitus à Vladimir Poutine.
Alors moi, je pense que ce sentiment de grandeur est une construction politique que Poutine a proposé à sa population, à défaut d'autre chose. À mon sens, sa grandeur, il l'a construite progressivement au cours de ses mandats. Lorsque Poutine arrive au pouvoir, ce n'est personne.
Il est un petit officier du KGB, et la question qu'on se pose, c'est qui est ce Vladimir Poutine ?
Il est un petit officier du KGB, on connaît relativement mal son parcours, ce n'est pas une figure visible, il travaille plutôt dans l'ombre du pouvoir politique, mais il arrivera justement à construire son aura sur une légitimité complètement différente de ses prédécesseurs, où cette idée de grandeur n'arrivera que tardivement. D'abord, ce qu'il arrivera à construire, c'est l'image du leader du pays comme celui qui prend soin de ses citoyens. Ce que son prédécesseur Vladimir Yeltsin avait, aux yeux de la population russe à ce moment-là, échoué à faire. Prendre soin des citoyens, c'est rétablir l'ordre. Prendre soin des citoyens, c'est redistribuer de l'argent. Et prendre soin des citoyens, c'est surtout devenir le bon manager du pays auquel il ne faut pas d'alternative. L'idée même de l'alternative devient... Dans la manière dont Poutine gère le pouvoir, finalement quelque chose d'inutile au bon fonctionnement de la société. Donc, à mon sens, la construction de la figure poutinienne, elle est passée par toutes ces étapes. La grandeur arrive, selon moi, au moment où il n'y a plus d'autre chose à offrir à la population russe, notamment avec le déclin économique. C'est certainement un domaine dans lequel Poutine se sent extrêmement à l'aise. Ça correspond à sa formation en tant qu'ancien des forces de l'ordre. Ça correspond à ses positions géopolitiques.
Il aime le rapport de force.
Il aime le rapport de force. Il aime ce que l'Union soviétique représentait. C'est cela qu'il essaie aujourd'hui de proposer à la population russe. Mais surtout, si cela marche, c'est parce que cette idée de grandeur est assortie d'une idée de menace qui viendrait de l'extérieur.
Alors, Claude Blanche-Maison, cette fierté retrouvée, l'idée que la Russie redevienne la grande Russie, avec les guerres menées en Géorgie, en Ukraine, l'occupation de la Crimée ou l'intervention en Syrie, est-ce qu'elle est, vous diriez qu'elle est plus importante pour les Russes que, par exemple, l'amélioration du niveau de vie? Il s'est beaucoup dégradé ces dernières années avec notamment la baisse du prix du pétrole, ou encore l'abandon des libertés. Qu'est-ce qui est le plus important pour les Russes? Vous avez été un observateur privilégié de la Russie pendant des années, vous l'êtes toujours.
Bon, à court terme, en effet, vous avez sûrement raison. À court terme, le thème de la grandeur du pays a sûrement une très grande rentabilité politique en Russie. Je suis moins sûr que ce soit le cas à long terme, parce que, après tout, la grandeur d'un pays se mesure aussi à sa puissance économique. On peut installer la grandeur avec des conquêtes militaires, avec des coups d'opportunité, mais à long terme, évidemment, la puissance d'un pays se mesure à sa puissance économique d'abord. Et c'est là que le bât blesse aujourd'hui avec Vladimir Poutine, parce qu'il a fait tout le reste, mais il n'a pas réussi à transformer l'économie russe en économie compétitive, et tout d'un coup, l'été 2014, les prix du pétrole sont divisés par 3, et on s'aperçoit que le roi est nu. C'est-à-dire que lorsque on ne vit plus dans l'abondance de la rente pétrolière, eh bien, on mesure la faiblesse du rouble, on mesure la faible compétitivité de l'économie russe, peut-être s'offre dans le complexe militaro-industriel. Je voudrais quand même ajouter, parce que tout a été dit sur la personnalité de Poutine, mais peut-être un élément psychologique qui me paraît tout à fait profond chez Poutine, et c'est ce que m'ont dit mes interlocuteurs quand je suis arrivé à Moscou. Poutine est un homme énigmatique. Et dans le fond, les Russes aiment bien les énigmes plus ou moins indéchiffrables. Et il est énigmatique parce qu'après tout, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, sa biographie, c'est un peu lui qui l'a écrite, d'abord avec les trois journalistes dont il a accepté l'interview en 2000 lorsqu'il se présentait à l'élection. C'est lui qui a raconté sa propre vie. Et si nous faisions une fiction, et si tout ça n'était que la production d'un quelconque bureau des légendes, et si son origine était un peu différente, nous n'en savons rien. Les recoupements sont assez minces. Il est énigmatique et il veut l'être. Et dans le fond, aujourd'hui, nous ne savons absolument rien de sa vie privée. Nous ne savons pas avec qui il passe ses soirées. Nous ne savons pas quel film il regarde. Nous
qui
savons
sont
pas
ses ce amis fait. C'est vrai qu'on se posait la question en 2000. Qui est Vladimir Poutine? On peut de nouveau se la poser en 2018. Qui est Vladimir Poutine? Alors, Nathalie Lapina, je voudrais revenir à cette petite question. Comment les Russes arbitrent entre l'idée que le pays, en tout cas, redevient grand, un grand pays avec cette nostalgie de l'URSS et ce drame qui a été la disparition de l'URSS, je recite Vladimir Poutine, en contrepartie d'un pays où il n'y a pas beaucoup de liberté, où, comme vient de le dire Claude Blanche-Maison, l'économie n'est pas si brillante que ça et reste très dépendante du pétrole. Comment les Russes arbitrent ce choix entre, on a l'illusion de la grandeur retrouvée et en même temps on vit dans un pays où c'est pas si facile que ça de vivre sur le plan de la vie quotidienne et sur le plan des libertés dont on dispose.
Mais vous savez, Daniel, je voudrais parler un tout petit peu sur la personne de Vladimir Poutine. Il y a une chose qu'on n'avait pas mentionnée, c'est-à-dire Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'histoire. Il veut construire une image pour l'histoire. Il veut marquer l'histoire. Et beaucoup de choses qu'il fait, il faut les voir dans ce créneau-là. Parce que c'est quelqu'un qui est attaché au passé et qui est attaché à la culture russe. Et ça donne une image, à mon avis, plus complète de ce qu'est Vladimir Poutine. C'est pas tout simplement un petit colonel, comme on disait, un petit colonel des services secrets. C'est un grand homme politique, et ce n'est pas un hasard pur que depuis des années, il a un code de popularité qui est très élevé. Et je sais qu'en France, il devient de plus en plus populaire. Pour ce qui concerne votre question sur ce dualisme, d'un côté le pays devient plus pauvre, de l'autre côté les Russes soutiennent l'idée de la grandeur, comment on peut vivre les deux? Je dirais que les enquêtes qui étaient menées par les sociologues russes, ils montrent que les Russes soutiennent l'idée de la grande puissance. 64% des Russes, d'après le centre Levada, un des centres de sociologie les plus respectables, nous donne ce chiffre. Les Russes, ils veulent voir comme un pays qui se développe et un pays qui imprègne sa propre voie de développement. C'est très important. Comment marier les deux choses, cette envie de grandeur et la pauvreté, parce que depuis 4 ans, les revenus des familles russes...
Les classes moyennes ont beaucoup souffert, hein.
Oui, tout à fait. Énormément. Si on avait le temps de parler de la société russe, il y a beaucoup de chiffres. Tout d'abord, il y a la baisse de la classe moyenne, ce qui est un signe caractéristique, parce que en fait, c'est la classe moyenne qui donne la stabilité à toute société et au système démocratique aussi. Aujourd'hui, les sociologues nous donnent à peu près le chiffre de 18% de la population active. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que il y a encore quelques années, on donnait le chiffre d'un quart de la population.
Nathalie Lapina, les Russes s'adaptent à cette situation et finalement n'en veulent pas trop à Vladimir Poutine puisqu'il redonne l'illusion d'une grandeur en tout cas.
Tout à fait. Mais il y a un moment, c'est que Vladimir Poutine a su se distancier pendant ses 3 mandats présidentiels. Il a eu Il était assez malin pour se distancier du parti du pouvoir et de la politique qui est menée par le gouvernement. C'est-à-dire que les Russes, au mois de janvier, il y avait 83% de Russes qui soutenaient le président russe. Et en même temps, ils sont très critiques vis-à-vis de la politique qui est menée par le gouvernement. 60% des Russes disent qu'ils sont mécontents de Medvedev et du gouvernement. Donc,
On sent bien le paradoxe. Il y a donc en tout cas une élection avec des candidats, ils sont nombreux de 8, Vladimir Poutine bien sûr, l'extrême nationaliste Vladimir Zhirinovsky, 3 communistes ou crypto-communistes et 3 libéraux, dont une jeune femme, journaliste, star de la télévision, elle s'appelle Ksenia Sobchak, elle a 36 ans, et comme Vladimir Poutine refuse le débat, elle a profité de sa qualité de journaliste pour interpeller le président russe lors d'une de ses rares conférences de presse.
Je suis venue en tant que journaliste de la chaîne Dosht parce que c'est la seule possibilité de vous poser une question parce que vous ne participez pas au débat. Le problème, c'est que aujourd'hui, soit on ne laisse pas les candidats d'opposition participer aux élections, soit on leur crée des problèmes. Je le sens pour moi-même. Par exemple, il y a le candidat M. Navalny, on ne le laisse pas participer aux élections. En ce qui concerne mes activités, c'est la même chose. Il est très difficile de se trouver une salle dans laquelle on peut se présenter. Tout le monde a peur parce que les gens comprennent qu'être dans la position en Russie, ça veut dire qu'on va te tuer, soit on va te mettre en prison, soit autre chose va arriver dans ce genre.
Qu'est-ce que vous proposez pour la solution des problèmes que nous abordons aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que dans nos rues, nous rencontrions des personnes comme Saakashvili? Vous avez évoqué des personnes qui ressemblent à Saakashvili. Et vous voulez que ces personnes-là déstabilisent la situation dans notre pays?
Alors, dialogue difficile entre Ksenia Sobchak et puis Vladimir Poutine qui lui répond par une boutade, comme il a souvent l'habitude de le faire. Tatiana Jean-Castoeva, qu'est-ce qu'elle représente, Ksenia Sobchak, qui paraît comme ça, un peu la seule candidate d'opposition, voilà, mais qui ne représente pas grand-chose en termes de pourcentage, finalement, quand on aura le résultat?
D'une part, pas la seule candidate de l'opposition. Il y a aussi Grigory Yevlinsk, qui est le président de Yabloko. Et d'ailleurs, il y a toute une histoire, pourquoi que plusieurs petits candidats, c'est aussi les questions de morcellement du vote.
Bien sûr.
Ksenia Sobchak, un personnage très intéressant, parce que d'une part, elle est issue de ses élites. Son père était proche de Vladimir Poutine.
Il était le maire de Saint-Pétersbourg.
De tendance très libérale, à un moment où on pensait même qu'il pouvait devenir le prochain président de la Russie.
Mais il est décédé dans la période un peu de transition, on va dire.
Voilà, tout à fait. Donc, quelqu'un qui est issu des élites et qui a 18 ans au moment où Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Et son virement se fait autour des protestations sociales en 2011 et 2012, après les falsifications des élections parlementaires, où il se retrouve finalement face à celui qui est réputé être son parrain. Et depuis, donc, elle est l'une des figures proue de l'opposition. Avec certaines contradictions, j'ai écouté il y a 2 jours sa dernière interview à Écho de Moscou. Elle expliquait à la fois qu'elle était extrêmement reconnaissante à Vladimir Poutine pour le soutien prêté au moment de la mort de son père, et à la fois elle s'oppose d'une manière parfois assez violente
à ce qu'on représente
Vladimir Poutine. Non, tout à fait, voilà. Mais elle est parfois prise dans ses propres pièges. Par exemple, il est très intéressant de voir son attitude à l'égard de la Crimée, où à la fois elle dit que la Crimée est ukrainienne et qu'il y a eu violation du droit international. En même temps, il y va pour faire sa campagne en demandant l'autorisation à l'Ukraine. Donc le positionnement n'est pas toujours facile. Et quand elle a déclaré sa candidature, évidemment, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que ce soit un projet du Kremlin, donc un accord en concertation avec l'administration présidentielle, et que ça aide a légitimé en fait ces élections-là et a augmenté le taux de participation, parce qu'autrement cet électorat protestataire aurait plutôt suivi la consigne d'Alexei Navalny, l'opposant principal au régime, qui lui n'a pas été admis à participer à ces élections.
Dont on va évidemment parler dans la deuxième partie de l'émission, on va parler d'Alexei Navalny, dont on va revenir sur Vladimir Poutine. Des élections courues d'avant, dont on connaît déjà le résultat, ce sera très exactement dans une semaine. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Tkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Il y a des pays où au lendemain des élections on ne sait pas qui gouvernera et d'autres où bien avant le scrutin on connaît déjà le vainqueur. En Russie, les élections présidentielles vont se dérouler dans une semaine très exactement, mais le nom du président qui sortira des urnes est déjà connu. Il s'appelle Vladimir Poutine. Sans opposant d'envergure, grâce à un contrôle quasi total des médias et de l'administration, Vladimir Poutine est assuré d'entamer un quatrième mandat présidentiel malgré une situation économique guerre florissante. Si la Russie est sortie de récession l'an dernier, le pouvoir d'achat des ménages russes est en berne et le pays est toujours très dépendant du pétrole. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Tatiana Kastoeva-Jean, elle est directrice du centre Russie NEI à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Son dernier livre, La Russie de Poutine en 100 questions chez Taillandier. Anna Colin-Lebedev, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Il vient de publier Vivre avec Poutine chez Temporis. Et en duplex du bureau RFI de Moscou, Natalia Lapina, sociologue et directrice de l'Institut d'information scientifique en sciences sociales de l'Académie des sciences de Moscou. Alors on a parlé, Anna Colin-Lebedev, de Ksenia Sobchak, qui est l'opposante, je dirais, la plus visible, celle qui fait le plus de bruit, qu'on remarque un peu plus, en tout cas, lorsqu'on regarde la Russie de l'extérieur et par exemple de Paris. Mais les deux grands opposants potentiels qui auraient pu s'opposer à Vladimir Poutine, qui auraient été des candidats très crédibles, ils ne sont pas là. Pour le premier s'appelle Boris Nemtsov, il a été assassiné en 2015 au pied du Kremlin. Et puis le deuxième, Alexei Navalny, a été empêché de participer à ces élections. Ils auraient été l'un comme l'autre deux candidats sérieux face à Vladimir Poutine, en tout cas beaucoup plus sérieux.
Je ne suis pas convaincue que Boris Nemtsov ait pesé énormément dans cette élection présidentielle. Ce n'était pas quelqu'un qui bénéficiait d'une grande popularité auprès des Russes, qui n'avaient pas l'aura médiatique d'Alexei Navalny, qui avait contre lui son passif dans l'administration yeltsinienne. Donc c'est vrai qu'à posteriori, il apparaît comme un grand personnage politique. Il n'est pas certain qu'il aurait joué ce rôle dans cette élection présidentielle. Alors, avant d'en venir à Alexei Navalny, quelques mots sur pourquoi est-ce qu'on remarque Ksenia Sobchak aujourd'hui. Au moment où elle se présente aux élections présidentielles, les observateurs occidentaux sont tous extrêmement sceptiques. Les observateurs russes également. On voit en elle une star de la télévision.
Quelqu'un de pas très sérieux, quoi.
Voilà, quelqu'un de pas très sérieux, une marionnette mise en place. Et en fait, ce qui la rendrait lisible pour nous, c'est que c'est la seule candidate à cette élection présidentielle qui tient un discours politique tel que l'on attendrait d'une campagne présidentielle. Elle parle certes des droits de l'homme, mais elle parle aussi de la situation économique du pays. Elle parle du bilan de Vladimir Poutine, ce que les autres ne font pas. Elle parle, elle s'interroge sur le projet à venir pour la Russie, ce qu'aucun autre candidat ne fait. Et elle le fait en des termes, on va dire, qui nous sont entendables. Et en même temps, avec une certaine fraîcheur.
Oui, 36 ans.
Qui fait qu'on fait attention à elle.
Néanmoins, elle est la candidate des zones urbaines de la Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Dès qu'on arrive dans la campagne russe, elle est évidemment en décalage.
Elle est la candidate de l'expression d'une certaine critique sociale, qui certes est extrêmement minoritaire, mais moi je prends sa candidature politique pour l'instant comme une expérimentation journalistique. Ksenia Sobchak est là pour introduire du politique dans ce débat qui en manque. En fait, avec le principal candidat qui ne parle jamais à ses opposants et les autres qui tournent en rond dans la mesure où les gros candidats, en fait, quelque part, sont sur des positions attendues. Alors, il y a un autre candidat intéressant à examiner qui est le candidat proposé par les forces, par le Parti communiste.
Alors hein. Oui, il s'appelle Pavel Grudinin, et alors curieusement, c'est un millionnaire du Parti communiste.
C'est un millionnaire paysan. Pavel Grudinin est présenté de manière un peu par surprise comme candidat au nom du Parti communiste, parti dont il n'est pas membre par ailleurs, hein, c'est un ancien de Russie Unie, parti du pouvoir, mais il a une image un peu bonhomme de président de ferme collective, qui sait bien gérer son entreprise, qui a une bonne moustache, qui a une bonne bouille, etc. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est effectivement que c'est quelqu'un qui a une fortune personnelle, mais après tout, ce n'est pas un crime dans la Russie contemporaine, mais aussi que c'est quelqu'un qui porte des messages, il n'est pas seulement soutenu par le Parti communiste, il est également soutenu par des mouvements nationalistes. Et il porte un message relativement nationaliste et xénophobe.
C'est pas d'ailleurs antinomique. On peut être communiste, xénophobe et nationaliste. Et Pavel Grudinin le prouve. Alors vous l'avez dit, Anna Kolanébédev, Vladimir Poutine s'est lancé dans la campagne modestement et tardivement. Il est sûr de lui, Claude Blanchemaison. C'est une illustration.
Oui, je crois d'ailleurs que dans votre présentation initiale, vous l'avez à juste titre présenté comme une sorte de candidat centriste. Vous avez énuméré les candidats à sa droite et les candidats à sa gauche. Et dans le fond, c'est son jeu. C'est de dire, je représente une vaste force centriste. Alors, il se présente sans étiquette politique, mais le parti dominant, le parti Russie Unie, est naturellement son bras armé. Et à sa droite, des hyper-nationalistes. À sa gauche, des néo-communistes. Avec, en effet, le phénomène Grudinin, le roi de la fraise, puisqu'il paraît que son ancien Sovkhoz fabrique les meilleures fraises de la région de Moscou. Et il fait dans les fruits et légumes. C'est assez pittoresque. Xenia, moi, je pense qu'elle fait son entrée en politique dans cette campagne et qu'on entendra parler dans l'avenir. Peut-être elle deviendra gouverneure, parce que sans doute que pour se présenter à cette élection, elle n'est pas la marionnette du Kremlin, mais elle n'a pas pu le faire sans un aval tacite du Kremlin. Ça n'est pas
pensable.
D'autant
plus que, comme le disait Tatiana Jean-Castoueva, elle est la filleule de Vladimir Poutine.
Donc elle s'introduit et elle peut-être qu'elle joue pour le prochain coup, c'est-à-dire dans 6 ans. Et qu'entre-temps, elle deviendra peut-être gouverneur ou ministre ou une responsabilité quelconque. Elle fait son entrée en politique, en effet, avec des thèmes modernes, en effet, des termes qui plaisent aux jeunes, sans doute, et qui déplacent un petit peu, qui réintroduisent un vrai débat politique. Je voudrais dire aussi que la constitution de 93, la constitution russe dans laquelle nous sommes, est une constitution qui ressemble un petit peu à la constitution française, puisqu'il y a un président élu au suffrage universel direct, et qui est un premier ministre qui est responsable devant la Douma. D'ailleurs, Yeltsin en savait quelque chose, puisque la Douma n'aimait pas souvent ses premiers ministres, et qu'il était obligé de faire des compromis pour nommer ses premiers ministres. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, parce qu'il y a un parti dominant, mais comme le défi du prochain mandat, je crois que là-dessus on est tous d'accord, c'est l'économie. Le vrai sujet, c'est de savoir qui Poutine va nommer comme premier ministre et comme gouvernement. Est-ce que ce sont des gestionnaires capables de réformer l'économie ou est-ce que ce sont des sécuritaires? Et c'est en fonction de ça qu'il laissera une place dans l'histoire.
Ça laisse peu de chance à Medvedev, l'actuel premier ministre?
Aucune.
Alors, Tatiana Jean-Costaeva, Vladimir Poutine refuse de participer au débat télévisé. C'est l'idée pour lui l'idée qu'il est au-dessus des autres et qu'il ne va pas se mêler à la plèbe des candidats, des 7 autres candidats. C'est un peu ça, cette idée ?
Oh, je pense que oui, il estime qu'il a fait ses preuves. Et d'ailleurs, même pendant les mandats précédents, il n'a pas participé au débat. C'est pas, a priori, dans sa culture politique. Et il n'estime pas que ce soit quelque chose de nécessaire. Et donc, du coup, c'est vrai que les conditions entre les candidats, on ne parle pas d'égalité entre les candidats. Et Vladimir Poutine, ce qui est très intéressant, jusqu'il y a peu de temps, il n'y avait même pas de programme. Il ne présentait rien du tout. Alors qu'en 2012, il avait fait toute une série d'articles où il expliquait sa prochaine politique. Et là, on a dû attendre le 1er mars, le discours devant l'Assemblée fédérale, devant le Parlement russe, pour qu'il nous expose quelques lignes de son prochain mandat. Et ça, c'était assez surprenant.
On va y venir, évidemment. Il a tenu aussi un meeting il y a quelques jours, je crois que c'était le 1er mars, au stade Loujniki. Il y avait beaucoup de monde, paraît-il, jusqu'à 100 000 personnes.
Oui,
et son intervention a duré 3 minutes, ce qui est quand même extrêmement bref. Hein. Bon, on n'a pas le temps évidemment de développer un programme en 3 minutes. Alors vous l'avez dit, Tatiana Jean-Castoueva, Vladimir Poutine s'est adressé indirectement à ses concitoyens à l'occasion de son discours annuel au Parlement, c'était là encore le 1er mars dernier. Et pour en connaître la teneur, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Laurence Abbé.
Bonjour Daniel.
Le président russe aurait pu profiter de l'occasion pour tracer les grandes lignes de son programme. Et non, il a surtout insisté sur les nouveaux missiles dont dispose la Russie. Discours relaté par Moskovski comme Somolets.
Oui, alors le discours a quand même été composé de deux parties, dont une a été consacrée aux grandes perspectives de développement de la Russie pour le mieux-être des citoyens russes. Mais effectivement, ce qui a fait sensation, c'est cette heure entière avec vidéo à l'appui où Vladimir Poutine a fait une démonstration de force inédite.
Avec un nouveau missile russe plus extraordinaire que les précédents.
Oui, alors il y en a plusieurs, parce que c'est tout un système, tout un arsenal offensif, et notamment le missile Sarmat, qui est censé déjouer les systèmes de défense antimissile américains.
Alors évidemment, ça plaît beaucoup aux Russes et à l'état d'esprit, à la fierté des Russes.
Oui, la présentation a fait sensation et a recueilli évidemment l'enthousiasme de l'auditoire qui s'est levé à plusieurs reprises. Et il faut dire que eh bien, ce programme très offensif s'inscrit dans un contexte de revanche que eh bien, les Russes estiment mérité.
Alors mérité évidemment d'un point de vue de Vladimir Poutine car il a en ligne de mire évidemment les Occidentaux et plus particulièrement les Américains.
Et les Américains avec leur système de défense antimissile qu'ils déploient aux frontières de l'Union européenne. Ces systèmes dévaluent le potentiel nucléaire russe. C'est pourquoi les Russes répliquent désormais par une nouvelle arme stratégique offensive qui est capable de déjouer ces systèmes antimissiles américains.
Et pour Nikolai Vardoul, éditorialiste au Moskovski comme Somolets, cela ne présage rien de très très bon pour les années à venir.
Non, il estime même qu'on est en train de courir à toute vitesse à la catastrophe et qu'il va falloir contraindre les parties à la paix en arrachant de nouveaux accords, ce qui sera extrêmement difficile dans le contexte international actuel.
Merci Laurence, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, Nathalie Lapina, ce discours, cette intervention de Vladimir Poutine devant le Parlement, il a surpris. C'est vrai, on aurait pu s'attendre à ce qu'il développe comment moderniser l'économie russe, comment redonner un peu de pouvoir d'achat aux Russes. Il a choisi pendant une heure sur deux, de parler de ce nouveau missile qui est, comme je le dis, plus formidable encore que les autres. Ça a surpris les Russes ou au contraire, ça les a rassurés?
Écoutez, il y a les deux parce qu'il y a quand même, j'insiste sur le fait qu'il y avait deux parties dans son discours et la première partie était consacrée aux problèmes de la vie courante, à l'état de la santé, de l'éducation, de l'économie et ce qui est très important, Vladimir Poutine a montré qu'il connaissait les problèmes dans tous ces domaines. Donc il se rend compte que les problèmes sont graves et qu'il faut vraiment trouver des solutions pour le développement, comme il disait, la percée, le mot percée était employé à plusieurs reprises, pour organiser cette percée dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'économie. Pour ce qui concerne...
Néanmoins, la priorité dans le budget de la Russie, il est plutôt en direction de l'armée et de la sécurité plutôt que vers l'éducation et la santé.
Oui, cette deuxième partie, elle s'inscrit, à mon avis, totalement dans la logique de la grande puissance qui est soutenue, l'idée qui est soutenue par les Russes. Et je dirais qu'il y a deux points de vue concernant cette adresse annuelle au Parlement. Il y a les uns qui disent, voilà, c'est un discours de guerre. Vladimir Poutine veut faire la guerre à l'Occident collectif, avec l'Occident collectif, il menace. Et puis d'autres qui disent, à l'Occident et en Russie, non, pas du tout. Vladimir Poutine, il veut la paix, mais c'est la façon de faire la paix quand vous renforcez et rééquipez vos forces militaires. Donc il faut prendre en considération plusieurs choses en même temps, qui existent en même temps.
Carrefour de l'Europe, Vladimir Poutine déjà réélu une semaine avant les élections. Je vous présente les invités. Tatiana Kastoeva-Jean, elle est directrice du centre russe de l'IFRI. Anna Colin-Lebedev, elle est maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou. Et en duplex de Moscou, bureau RFI, Natalia Lapina de l'Académie des sciences de Russie. Anna Colin-Lebedev, à quoi elles servent ces élections finalement, puisqu'on connaît le résultat d'avance?
Eh bien, ma foi, elles sont extrêmement utiles. La fonction d'une élection ne se limite pas à arbitrer entre plusieurs candidats pour choisir l'élite dirigeante. L'élection est un... peut avoir toute une série de fonctions, une fonction de relégitimation du pouvoir. C'est un grand moment où le soutien est affirmé, et pour cela il est nécessaire à Poutine d'en sortir avec non seulement une réélection mais un score plus qu'honorable. C'est là, je dirais, le principal enjeu et le principal défi de cette élection. Ce n'est pas de savoir est-ce que Poutine sera élu, mais avec quel taux de participation et avec quel score.
Alors justement, il y a un candidat qui n'a pas pu se présenter et qui milite pour l'abstention, c'est Alexeï Navalny. Est-ce qu'il arrive à se faire entendre, qui veut réagir à Claude Blanche-Maison?
Bon, je pense que ça sera très difficile, parce que bien entendu, l'abstention, elle est détectée par les services, par l'employeur, que ce soit l'administration ou l'entreprise. Donc l'abstention, elle est difficile. Peut-être qu'il aurait été plus astucieux de proposer le vote nul dans ce cas-là.
Mais est-ce qu'il est comptabilisé?
Voilà, c'est aussi un autre problème. Mais je pense que le taux d'abstention ne sera pas énorme, parce que pour tous ceux qui sont employés dans des institutions, que ce soit l'administration ou les entreprises, c'est difficile de s'abstenir. Je pense aussi que, officiellement, d'après la Constitution que je mentionnais tout à l'heure, il s'agit du dernier mandat de Vladimir Poutine.
Peut-être.
Oui, d'après la Constitution, c'est pour ça que je disais, sauf à modifier la Constitution, ce qui serait en effet une forme de coup d'État. Il ne l'a pas fait en 2008. Il a respecté formellement la Constitution en cédant sa place à Medvedev et en prenant le poste de Premier ministre. Et il n'est pas sûr qu'il puisse le faire impunément une deuxième fois. Prenons l'hypothèse de la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est le dernier mandat, et c'est celui, encore une fois, je me répète, qui déterminera sa place dans l'histoire. Et sa place dans l'histoire, maintenant, c'est la réforme de l'économie russe. Et donc, faire jouer à plein la Constitution, et avoir une équipe gouvernementale qui sache redresser l'économie russe.
Alors, en ce qui concerne l'économie, la Russie, le PIB de la Russie, il est comparable à celui de l'Espagne, une quarantaine de millions d'habitants d'un côté, 145 millions de l'autre, c'est-à-dire qu'il est quand même très faible, et toujours une grande dépendance à l'égard du pétrole et de l'exportation des matières premières. Un pays où les inégalités sont profondes entre les très riches et les très pauvres, avec des disparités régionales très très importantes, une démographie en berne, 145 millions d'habitants, tous les ans la Russie perd environ 500 000 habitants. Et donc on l'a dit, des dépenses prioritaires de la Russie qui vont plutôt vers l'armée et la sécurité plutôt que la santé et l'éducation. Est-ce que le bilan de Vladimir Poutine sur le plan économique en 18 ans de pouvoir est crédible?
Juste un mot peut-être, et surtout j'ajouterai à votre diagnostic, un pays où on n'investit pas, un pays où on investit peu, un pays où les dépenses de recherche sont bien plus faibles que dans les grands pays, que dans les autres grands pays du monde. Et il faut effectivement, si Vladimir Poutine veut réussir son dernier mandat, qu'il donne confiance aux investisseurs. Et là, je parle des investisseurs russes en premier, bien sûr les étrangers aussi, mais les Russes d'abord, car les oligarques, les investisseurs russes, n'investissent pas suffisamment et évidemment mettent leurs réserves financières à l'étranger, ce qui est un vote de défiance vis-à-vis de l'avenir du pays. Et ça, c'est très grave, effectivement.
Natalia Lapina, sur le plan économique, est-ce que les Russes perçoivent les 18 ans de pouvoir de Vladimir Poutine comme plutôt une réussite sur le plan économique ou plutôt comme un échec?
Il y a une vision contrastée parce que il y a le pays dans les années 90, la Russie était un pays endetté. Donc aujourd'hui, les dettes extérieures ont énormément baissé. La Russie n'est plus endettée. La Russie, c'est un pays où l'économie devient de plus en plus étatisée. Donc ça met le problème de méfiance vis-à-vis de toute activité entrepreneuriale. On parlait tout à l'heure des investissements qui ne sont pas suffisamment présents dans l'économie russe. Mais le taux d'investissement montre le taux de méfiance de la classe, des acteurs économiques vis-à-vis du système. C'est ça le grand problème.
C'est que les Russes qui seraient décisionnaires ne croient pas en la Russie.
Je ne dirais pas comme ça, mais c'est la méfiance. Et encore un point très important qui concerne beaucoup de gens, c'est la petite et moyenne entreprise. Vous savez, j'ai eu une expérience tout à fait particulière dans les années 90. J'ai travaillé dans l'équipe de Alain Touraine et de Michel Vieviorka sur les acteurs sociaux de la Russie post-soviétique. Et on constatait à l'époque l'existence d'un désir des gens de créer leur propre entreprise. Cette classe moyenne soviétique était sortie du carcan idéologique du pays communiste, voulait être active. Aujourd'hui, dans son appel au Parlement, Poutine a mentionné le chiffre de 19 millions de entrepreneurs, petits et moyens entrepreneurs. Il parlait de l'élargissement de la petite et moyenne entreprise. Mais si la méfiance vis-à-vis du système reste, il n'y aura pas cette augmentation. Donc c'est pour ça que je me répète, il n'y a pas une seule et unique réponse à la question « Est-ce que les Russes ont une vision concrète de ce qui s'est passé ?»
Alors, Tatiana Jean-Castoueva, est-ce que ce n'est pas un problème fondamental de la Russie que vient d'expliquer Tatiana Lapina sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur, c'est-à-dire que la capacité d'attractivité de la Russie reste faible et on perçoit davantage la Russie comme un pays qui a plutôt une capacité de nuisance que d'attractivité. Alors, évidemment, lorsqu'on parle des élections américaines, on se dit, est-ce que les Russes sont derrière? En Grande-Bretagne, récemment, l'assassinat d'un ex-espion soviétique, est-ce que les Russes sont derrière? Est-ce que, voilà. Donc, ce pays a du mal à dégager une image positive.
Pourtant, il a essayé au milieu des années 2000 et surtout sous Dmitri Medvedev. On a beaucoup parlé de soft power qui fait partie maintenant des doctrines de politique étrangère russe. Il y a eu plusieurs organismes qui ont été mis en place pour améliorer l'image de la Russie, attirer les investisseurs, améliorer l'apprentissage de la langue russe dans le monde, etc. Et finalement, je pense que les Russes se sont rendus compte que tout ça, c'est un investissement qui a un effet très diffus sur le long terme, etc. Et eux, ils veulent des résultats assez rapidement. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que l'utilisation limitée de l'arme militaire, que tout ce qu'on appelle aujourd'hui, par un terme malpropre, de guerre hybride, etc. C'est vendu sous le terme de soft power, quand on parle de Russia Today qui s'installe en France, par exemple, voilà, c'est du soft power. Mais en même temps, Emmanuel Macron a été là-dessus, on ne peut pas plus clair, il appelait ces organes-là les organes de l'influence. Donc, les Russes veulent un résultat rapide, immédiat. Et en fait, ce qui les aide finalement pour montrer aujourd'hui leur attractivité, c'est plutôt les faiblesses qui démontrent les démocraties libérales. Le problème, il est là aujourd'hui, comme il y a beaucoup de défis dans le monde globalisé auxquels les démocraties libérales ne sont pas toujours très efficaces pour répondre. Ben, ça donne la raison de dire, ben, regardez, les régimes autoritaires comme le régime chinois ou le russe ont l'air de s'en sortir un petit peu mieux, sans s'encombrer des considérations morales en Syrie, etc. Ils vont droit au but avec les buts très réalistes, ne s'encombrent pas de l'idéologie. Faisons pareil. On a quand même beaucoup de forces aujourd'hui en Occident qui partagent ce point de vue et pour qui la Russie est redevenue attractive. On a toujours dit dans le soft power russe, il y a une politique active et ça manque d'attractivité. Et ben, parce qu'on pensait l'attractivité en termes libéraux. Et finalement, les démocraties illibérales, les démocraties formelles, ont aussi une sorte d'attractivité, y compris sur nos sociétés occidentales.
Comment se sent la Russie dans le monde, Claude Blanche-Maison? On dit toujours que les Russes se sentent encerclés, ce qui paraît étrange pour un pays si grand qui s'étale donc sur 11 fuseaux horaires.
Oui, c'est le syndrome classique de la forteresse assiégée, bien sûr, qui n'est pas nouveau, qui date dans l'histoire russe d'il y a très longtemps. Et ça n'est pas tout à fait faux. Effectivement, la Russie est entourée d'océans et de mers qu'il faut défendre. Il faut défendre des zones côtières qui sont extrêmement importantes. L'Arctique, le Pacifique, la Baltique, et puis des frontières terrestres qui sont également très longues, et des frontières terrestres qui aujourd'hui sont tout à fait reconnues, enfin sauf peut-être la difficulté qui subsiste en raison de l'Ukraine, mais pour le reste avec des rapports normaux avec ses voisins et notamment avec la Chine. Mais qu'est-ce qui se passera dans 50 ans? Qu'est-ce qui se passera des deux côtés du fleuve Amour dans 50 ans, compte tenu de la différence des densités démographiques, compte tenu aussi des capacités de développement économique, des capacités d'investissement? C'est une question, encore une fois, qui se pose pour le long terme de l'avenir de la Russie. S'agissant des pays occidentaux, moi je fais une différence entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que la Russie, et beaucoup de mes amis russes disent la même chose, a besoin d'une Union européenne forte, d'une Union européenne fiable, parce que c'est son partenaire naturel. Pourquoi ? Parce que nous sommes voisins, parce que l'Union européenne reste le premier partenaire économique de la Russie, ce qui n'est pas du tout le cas des États-Unis. C'est les échanges avec les États-Unis, c'est un dixième des échanges avec l'Union européenne, que nous avons besoin, bien sûr, de l'énergie, des hydrocarbures, mais que les Russes ont besoin de notre technologie. Et par conséquent, je suis persuadé que dans la période à venir, la Russie et l'Union européenne en reviendront au bon sens, c'est-à-dire s'asseront autour d'une table pour déterminer les zones de coopération qui sont dans la nature des choses.
Nathalie Pina, d'un mot, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en 2018, Vladimir Poutine a un projet pour la Russie ?
Je pense que oui. Il veut améliorer la situation économique. Il veut une discussion ouverte avec l'Occident.
Anna Colin-Lebedev, dernière question, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Est-ce qu'avec Vladimir Poutine, la Russie est redevenue une grande puissance ?
Si l'on prend la définition de grande puissance comme puissance qui, par la force, cherche à faire peur à ses voisins, elle est certainement en bonne voie de le redevenir. Si on considère qu'un pays est puissant par le bien-être qu'il procure à ses habitants, à mon sens, on en est loin dans le cas russe.
Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Maria Fonso et Laurence Abbé de Courrier International. Sur la page de Carrefour de l'Europe, plein d'infos sur nos invités. Pour écouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée, RFI.fr, rubrique émission, ou les applis mobiles, elles s'adaptent parfaitement à votre téléphone et notamment la petite dernière, RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesesquel, que vous soyez à Paris, Moscou, ailleurs, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.